Monsieur Dominique Saïd Paguindi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez présenté un exposé sur la candidature des femmes aux élections municipales et régionales à venir. D'entrée de jeu, quels sont les critères d'éligibilité pour ces femmes ?
Bien, je vous remercie. Effectivement, comme vous venez de le dire, j'ai déroulé une communication sur la participation des femmes aux élections locales à venir en insistant sur les critères d'éligibilité, notamment le premier critère, il faut être électrice, c'est-à-dire que la femme qui veut postuler aux élections doit être inscrite sur la liste électorale. C'est la première condition à satisfaire. Et à ce niveau, j'ai insisté sur la question de l'état civil. Nous sommes un pays post-conflit où les centres d'état civil ont été impactés par les crises récurrentes que nous avons connues dans ce pays. Et c'est pourquoi j'avais préconisé justement des mesures de contournement pour faciliter l'inscription sur la liste électorale, pour permettre aux femmes qui sont inscrites sur la liste électorale de se transformer en candidates. La loi électorale, qui est le code, autorise justement, à défaut d'un acte de naissance, de faire intervenir des témoins et la confirmation par le chef de quartier pour permettre justement de satisfaire à ce premier critère. Il y a également comme deuxième critère le critère de l'âge requis pour se présenter aux élections locales. Je l'ai rappelé, il faut avoir 25 ans pour se présenter aux élections municipales ou aux élections régionales. Mais également, j'ai insisté sur le critère de résidence. Les lois électorales antérieures exigeaient un lien de rattachement par la possession d'immeubles bâtis. Aujourd'hui, pour satisfaire aux engagements pris par l'État au plan international, pour faciliter la participation des femmes, donc l'exigence du lien de rattachement à travers la possession de propriétés bâties a été supprimée, ce qui facilite évidemment la candidature féminine.
Justement, parlons du quota de participation des femmes. La loi centrafricaine a fixé à 35% le quota de participation des femmes aux élections. Que faire si les partis politiques ou organisations politiques ont du mal à présenter ce nombre? On l'a vu pendant les élections passées.
Alors, la question de quota, d'après la Constitution et la loi sur la parité, il faut une représentation égale, 50-50. Et compte tenu du fait que le contexte national est tel qu'on ne peut pas atteindre cet objectif, nous avons pris une mesure transitoire temporaire, c'est le quota de 35%. L'espérance a prouvé lors des dernières élections, malheureusement, les partis politiques n'ont pas pu satisfaire à l'objectif de 35%. Et la loi électorale, dans ces cas-là, qui doit s'appliquer, la loi électorale a prévu justement le recours à la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer dans un délai de 8 jours. Donc, c'est cette possibilité, cette fenêtre d'opportunité favorable qui a été utilisée justement pour permettre aux partis qui n'ont pas pu atteindre l'objectif de participer aux dernières élections. Voilà ce que je dois dire.
Mais sur cette question, monsieur, ne pensez-vous pas qu'on peut le régler à la base, c'est-à-dire la formation déjà des femmes avant de parler de leur participation aux élections?
Vous avez parfaitement raison. Dans les préconisations, les mesures à mettre en place pour renforcer la participation des femmes, j'ai mis l'accent sur l'éducation et la formation des femmes. Ça doit commencer par l'éducation, par la formation, et c'est par ce canal-là que nous pouvons, au bout du compte, satisfaire aux exigences donc des 35% prévues par la loi.
Dans les critères d'éligibilité, monsieur, on demande à la femme d'être une électrice, de présenter un certificat de nationalité. C'est donc avoir nécessairement un acte de naissance. Que faire ou comment faire si son inscription sur la liste électorale n'a pas fait l'objet de présentation d'un acte de naissance?
Alors, sur la question, j'avais proposé en fait plusieurs solutions, mais à deux niveaux. Premièrement, au moment de l'enrôlement, à défaut de l'acte de naissance, on peut faire intervenir les témoins et le chef de quartier. Mais il faut, au bout du compte, avoir un acte de naissance. Et c'est pourquoi j'ai proposé les audiences foraines où les magistrats vont se déplacer dans les localités au plus proche de la population pour délivrer les certificats de nationalité. Et la question concerne également le casier judiciaire. Là également, j'ai rappelé la possibilité pour les candidates et les candidats de se rapprocher du ministère afin et précisément du casier central au niveau du ministère pour avoir les certificats ou le casier judiciaire pour permettre justement de satisfaire non seulement à la question de l'acte de naissance, mais également à la question du casier judiciaire. Et j'ai précisé également sur le casier judiciaire, sur la tenue du casier judiciaire. C'est vrai, il y a des candidats ou des candidates qui avaient été exclus du processus, soit en raison de poursuites pénales pendantes, soit en raison de condamnations antérieures. Mais j'ai dit que, eh bien, nous avons un créneau dans la loi qui est la réhabilitation. Après une condamnation, eh bien, on peut justement passer par la réhabilitation, soit judiciaire ou administrative, pour se présenter à nouveau aux nouvelles élections. Et donc, là également, c'est important d'insister sur cet aspect-là.
C'est le scrutin de liste qui permettra de respecter la parité homme-femme pendant ces élections. C'est la conclusion de votre présentation de tout à l'heure. Pourquoi ce choix au détriment du système uninominal qui est plus simple selon vous?
Alors, le scrutin uninominal, c'est un scrutin qui est simple à gérer. Le candidat qui arrive à recueillir la majorité des voix est déclaré élu. Donc c'est simple à mettre en œuvre. Mais ce système électoral comporte l'inconvénient de favoriser uniquement les hommes, puisque les partis politiques vont présenter uniquement des candidats hommes au détriment de la candidature féminine. Par contre, dans le scrutin de liste zébrée, au plus fort reste, eh bien, les partis politiques ou toutes les personnes ou associations qui vont être amenées à constituer des listes vont faire en sorte qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Dans le cadre des élections de liste, eh bien, toutes les parties qui ont concouru donc, au processus électoral, toutes ces parties ont la chance d'avoir des représentants donc, au sein soit du conseil municipal ou au sein du conseil régional, parce que c'est un mécanisme qui a l'avantage de favoriser les minorités, les partis minoritaires.
Selon les informations, les candidatures doivent être déposées seulement au niveau de l'ANI ici à Bangui. Que faire si une femme qui se trouve peut-être à Obo veut être candidat à ces élections?
Également, ça fait partie des points que j'ai déplorés, la centralisation et le formalisme du dépôt des candidatures au niveau de l'ANE. Eh bien, il faut quitter les localités, les extrémités de la RCA, venir à Bangui pour retirer les formulaires, les remplir, repartir dans l'arrière-pays, recueillir les signatures des colistiers pour ce qui concerne les élections municipales et revenir à Bangui. J'ai dit que c'est un processus qui va être coûteux pour les candidats ou les candidates. C'est pourquoi j'ai préconisé la décentralisation. Dans les réactions qui ont eu lieu après cette présentation, l'Autorité nationale des élections ainsi que le représentant du ministère de l'administration du territoire ont indiqué que justement cette préoccupation a été prise en compte. Aujourd'hui, l'administration est en train de travailler sur les possibilités de décentralisation du mécanisme d'enregistrement des candidatures. Et je pense que c'est une bonne chose pour justement favoriser les candidatures féminines.
Monsieur Dominique Saïd Pagindi, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.